Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Démocratie. Le pire des États, c'est l'État populaire. Cinna s'en explique ainsi à Auguste. Mais aussi Maxime soutient que le pire des États, c'est l'État monarchique. Bell, ayant plus d'une fois dans son dictionnaire soutenu le pour et le contre, fait à l'article de Périclès un portrait fort hideux de la démocratie et surtout de celle d'Athènes. Un républicain, grand amateur de la démocratie, qui est l'un de nos faiseurs de questions, nous envoie sa réfutation de Bell et son apologie d'Athènes. Nous exposerons ses raisons. C'est le privilège de quiconque écrit de juger les vivants et les morts. Mais on est jugé soi-même par d'autres qui le seront à leur tour, et de siècle en siècle, toutes les sentences sont réformées. Bell, donc, après quelques lieux communs, dit ses propres mots. Qu'on chercherait en vain dans l'histoire de Macédoine autant de tyrannie que l'histoire d'Athènes nous en présente. Peut-être Bell était-il mécontent de la Hollande quand il écrivait ainsi, et probablement mon républicain qui le réfute et est content de sa petite ville démocratique, quant à présent. Il est difficile de peser dans une balance bien juste les iniquités de la République d'Athènes et celles de la cour de Macédoine. Nous reprochons encore aujourd'hui aux Athéniens le bannissement de Simon, d'Aristide, de Thémistocle, d'Alcibiade, les jugements à mort portés contre Phocion et contre Socrate, jugements qui ressemblent à ceux de quelques-uns de nos tribunaux absurdes et cruels. Enfin, ce qu'on ne pardonne point aux Athéniens, c'est la mort de leurs 6 généraux victorieux, condamnés pour n'avoir eu le temps d'enterrer leur mort après la victoire, et pour en avoir été empêchés par une tempête. Cet arrêt est à la fois si ridicule et si barbare, il porte un tel caractère de superstition et d'ingratitude que ceux de l'Inquisition, ceux qui furent rendus contre Urbain Grandier, contre la maréchale d'Ancre, contre Morin, contre tant de sorciers, etc., ne sont pas des inepties plus atroces. On a beau dire, pour excuser les Athéniens, qu'ils croyaient, d'après Homère, que les âmes des morts étaient toujours errantes, à moins qu'elles n'eussent reçu les honneurs de la sépulture ou du bûcher. Mais une sottise n'excuse point une barbarie. Le grand mal que les âmes de quelques Grecs se fussent promenées une semaine ou deux au bord de la mer. Le mal est de livrer des vivants aux bourgeois, et des vivants qui vous ont gagné une bataille, et des vivants que vous devriez remercier à genoux. Voilà donc les Athéniens convaincus d'avoir été les plus sots et les plus barbares juges de la terre. Mais il faut mettre à présent dans la balance les crimes de la cour de Macédoine. Et on verra que cette cour l'emporte prodigieusement sur Athènes, en fait de tyrannie et de scélératesse. Il n'y a d'ordinaire nulle comparaison à faire entre les crimes des grands qui sont toujours ambitieux et les crimes du peuple qui ne veut jamais et qui ne peut vouloir que la liberté et l'égalité. Ces deux sentiments, liberté et égalité, ne conduisent point droit à la calomnie, à la rapine, à l'assassinat, à l'empoisonnement, à la dévastation des terres de ses voisins, etc. Mais la grandeur ambitieuse et la rage du pouvoir précipitent dans tous ces crimes de tout temps et en tout lieu. On ne voit dans cette Macédoine dont Bell oppose la vertu à celle d'Athènes qu'un tissu de crimes épouvantables pendant 200 années de suite. C'est Ptolémée, oncle d'Alexandre le Grand, qui assassine son frère Alexandre pour usurper le royaume. C'est Philippe, son frère, qui passe sa vie à tromper et à violer et qui finit par être poignardé par Pausanias. Olympias fait jeter la reine Cléopâtre et son fils dans une cuve d'airain brûlante. Elle assassine Aridée. Antigone assassine Eumène. Antigone Gonatas, son fils, empoisonne le gouverneur de la citadelle de Corinthe, épouse sa veuve, la chasse et s'empare de la citadelle. Philippe, son petit-fils, empoisonne Démétrius et souille toute la Macédoine de meurtre. Persée tue sa femme de sa propre main et empoisonne son frère. Ces perfidies et ces barbaries sont fameuses dans l'histoire. Ainsi donc, pendant 2 siècles, la fureur du despotisme fait de la Macédoine le théâtre de tous les crimes. Et dans le même espace de temps, vous ne voyez le gouvernement populaire d'Athènes souillé que de 5 ou 6 iniquités judiciaires, de 5 ou 6 jugements atroces dont le peuple s'est toujours repenti et dont il a fait amende honorable. Il demanda pardon à Socrate après sa mort et lui érigea le petit temple du Socratéion. Il demanda pardon à Phocion et lui éleva une statue. Il demanda pardon aux 6 généraux condamnés avec tant de ridicule et si indignement exécutés. Ils mirent au fer le principal accusateur, qui n'échappa qu'à peine à la vengeance publique. Le peuple athénien était donc naturellement aussi bon que léger. Mais dans quel état despotique a-t-on jamais pleuré ainsi l'injustice de ces arrêts précipités? Belle a donc tort cette fois. Mon républicain a donc raison. Le gouvernement populaire est donc par lui-même moins inique, moins abominable que le pouvoir tyrannique. Le grand vice de la démocratie n'est certainement pas la tyrannie et la cruauté. Il y eut des républicains montagnards, sauvages et féroces. Mais ce n'est pas l'esprit républicain qui les fit tels, c'est la nature. L'Amérique septentrionale était toute en république. C'était des ours. Le véritable vice d'une république civilisée est dans la fable turque du dragon à plusieurs têtes et du dragon à plusieurs queues. La multitude des têtes se nuit et la multitude des queues obéit à une seule tête qui veut tout dévorer. La démocratie me semble convenir qu'à un très petit pays, encore faut-il qu'il soit heureusement situé. Tout petit qu'il sera, il fera beaucoup de fautes, parce qu'il sera composé d'hommes. Oh, la discorde y régnera, comme dans un couvent de moines. Mais il n'y aura ni Saint-Barthélemy, ni massacre d'Irlande, ni vêpres siciliennes, ni inquisition, ni condamnation aux galères pour avoir pris de l'eau dans la mer sans payer, à moins qu'on ne suppose cette république composée de diables dans un coin de l'enfer. Après avoir pris le parti de mon Suisse contre l'ambidextre Bayle, j'ajouterai que les Athéniens furent guerriers comme les Suisses et polis comme les Parisiens l'ont été sous Louis XIV, qu'ils ont réussi dans tous les arts qui demandent le génie et la main comme les Florentins du temps de Médicis, qu'ils ont été les maîtres des Romains dans les sciences et dans l'éloquence du temps même de Cicéron, que ce petit peuple qui avait à peine un territoire et qui n'est aujourd'hui qu'un groupe d'esclaves ignorants, 100 fois moins nombreux que les Juifs, ayant perdu jusqu'à son nom, l'emporte pourtant sur l'Empire romain par son antique réputation qui triomphe des siècles et de l'esclavage. L'Europe a vu une république 10 fois plus petite encore qu'Athènes, attirer pendant 150 ans les regards de l'Europe, et son nom placé à côté du nom de Rome, dans le temps que Rome commandait encore au roi, qu'elle condamnait un Henri souverain de la France et qu'elle absolvait et fouettait un autre Henri, le premier homme de son siècle, dans le temps même que Venise conservait son ancienne splendeur et que la nouvelle république des 7 provinces unies étonnait l'Europe et les Indes par son établissement et par son commerce. Cette fourmilière imperceptible ne put être écrasée par le roi démon du Midi, et dominateur des deux mondes, ni par les intrigues du Vatican, qui faisait mouvoir les ressorts de la moitié de l'Europe. Elle résista par la parole et par les armes, et à l'aide d'un Picard qui écrivait et d'un petit nombre de Suisses qui combattit, elle s'affermit, elle triompha, elle put dire « Rome et moi ». Elle tint tous les esprits partagés entre les riches pontifes successeurs des Scipions, Romanus rerum dominos, et les pauvres habitants d'un coin de terre longtemps ignoré dans le pays de la pauvreté et des goîtres. Il s'agissait alors de savoir comment l'Europe penserait sur des questions que personne n'entendait. C'était la guerre de l'esprit humain. Alors on eut des Calvin, des Bèze, des Turretin, pour ses Démosthènes, ses Platons et ses Aristotes. L'absurdité de la plupart des questions de controverse qui tenaient l'Europe attentive ayant été enfin reconnue, la petite République se tourna vers ce qui paraît solide, l'acquisition des richesses. Le système de l'As, plus chimérique et non moins funeste que ceux des supra-slapsaires et des infra-lapsaires, engagea dans l'arithmétique ce qui ne pouvait plus se faire un nom, en théomorianique, et ils devinrent riches et ne furent plus rien. On croit qu'il y a aujourd'hui de république qu'en Europe. Ou je me trompe, ou je l'ai dit aussi quelque part, mais c'eût été une très grande inadvertance. Les Espagnols trouvèrent en Amérique la république de Tassala très bien établie. Tout ce qui n'a pas été subjugué dans cette partie du monde est encore république. Il y avait dans tout ce continent que deux royaumes lorsqu'il fut découvert, et cela pourrait bien prouver que le gouvernement républicain est le plus naturel. Il faut s'être bien raffiné et avoir passé par bien des épreuves pour se soumettre au gouvernement d'un seul. En Afrique, les Hottentots, les Cafres et plusieurs peuplades de nègres sont des démocraties. On prétend que les pays où l'on vend le plus de nègres sont gouvernés par des rois. Tripoli, Tunis, Alger sont des républiques de soldats et de pirates. Il y en a aujourd'hui de pareils dans l'Inde. Les Marathes, plusieurs hordes de Pathans, les Seiks n'ont point de roi. Ils élisent des chefs quand ils vont piller. Telles sont encore plusieurs sociétés de Tatars. L'Empire turc même a été très longtemps une république de janissaires qui étranglaient souvent leur sultan, quand leur sultan ne les faisait pas décimer. On demande tous les jours si un gouvernement républicain est préférable à celui d'un roi. Et la dispute finit toujours par convenir qu'il est fort difficile de gouverner les hommes. Les Juifs furent pour maître Dieu même. Vous voyez ce qui leur en est arrivé. Ils ont été presque toujours battus et esclaves. Et aujourd'hui, ne trouvez-vous pas qu'ils font une belle figure ?